Alors, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence qui a été organisée à la fois par le laboratoire Lexum et la chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies d'information et du commerce électronique. Activité également qui s'inscrit dans le cadre de cours qui se tiennent à la faculté de droit. Donc, en fait, on a en quelque sorte essayé de joindre l'utile à l'agréable en profitant de la présence de notre invité d'aujourd'hui pour tenir cette activité. Je me permets de présenter donc l'invité d'aujourd'hui qui est Pietro Sicuro. Pietro Sicuro qui est directeur de l'Institut des technologies d'information de la francophonie, qui est basé à Bordeaux mais qui déménage à Paris en fait à l'heure actuelle, au moment où on se parle. Il s'agit d'un des instituts de la francophonie qui est rattaché donc à l'Agence de la francophonie. Pietro Sicuro, désormais fonctionnaire international, a aussi mené une brillante carrière au Québec. Il a été sous-ministre adjoint responsable des enjeux internationaux reliés à la Société de l'information au gouvernement du Québec. Il a fait partie du secrétariat de l'autoroute de l'information, s'occupant des dossiers de langue et de culture au gouvernement donc, du Québec toujours. Il a été conseiller de M. Parizeau, de Jacques Parizeau. Auparavant, il avait travaillé à Téléfilm Canada et aussi au ministère fédéral des communications, ce ministère fédéral des communications qui a été aboli depuis, mais ce n'est pas lui qui l'a aboli, c'est aboli après. Il est titulaire d'une maîtrise en communication de l'UQAM, donc il fait partie de ces grands maîtres en communication qui, comme Guillaume Lepage et d'autres, sont de grands diplômés de l'UQAM. Il a été, à titre de fonctionnaire de la francophonie, il a été responsable de la préparation du sommet mondial de la Société de l'information pour l'Agence de la francophonie. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il est avec nous aujourd'hui, puisqu'il a accepté de nous entretenir des questions relatives au sommet mondial de la communication et plus largement aux questions relatives à la gouvernance d'Internet. C'est donc à ce titre qu'il a accepté de venir partager avec nous à la fois son expérience, mais aussi connaissances sur ce sujet. Alors, la façon dont on va procéder, c'est que Pietro Sicuro va nous faire une présentation et si des questions vous viennent, n'hésitez pas à intervenir. Je pense que c'est de cette façon. Et par la suite, on aura peut-être un échange sur ces différentes questions qui auront été soulevées autour de la gouvernance d'Internet. Alors, Pietro Sicuro, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je ne vais pas vous entretenir de manière monolatérale, c'est-à-dire m'adresser à vous, vous écouter, et s'il reste du temps, vous poser des questions. Non. J'ai plutôt fait le choix de faire une présentation parlée, ne pas utiliser le PowerPoint pour essayer d'éliminer le maximum de distance possible entre nous pour qu'on puisse échanger. D'abord, je tiens à remercier sincèrement Pierre Trudel et Daniel Poulain, qui m'ont invité, pour mon passage à Montréal, à venir m'entretenir avec vous. Je tiens à vous dire que vous avez vraiment une chance, parce que ce sont de très grands experts reconnus internationalement, mais qui sont très humbles. Mais je tiens à vous dire que ce sont parmi les meilleurs dans le domaine du droit de l'information. Ils sont reconnus par les organisations internationales, que ce soit l'UIT, le Centre de commerce international. Ce sont des gens qui ont des réseaux très riches et vous avez la chance d'en profiter. Et c'est pour cette raison, je tiens toujours à le dire, ils sont trop humbles pour toutes les qualités qu'ils ont. Également, ici, à l'Université de Montréal, au Québec, dans les réseaux universitaires, il y a quand même d'autres compétences qui sont reconnues. Il y a dans cette salle une personne, Jen Yang Wang, qui est ici, qui fait son doctorat conjoint au niveau des communications entre l'Université de Montréal, Concordia et l'UQAM, mais qui fait partie aussi du réseau Orbicom et qui coordonne tous les travaux pour l'Asie-Pacifique. Et ça, c'est extrêmement riche. Ça fait partie aussi des meilleurs réseaux sur la scène internationale qui sont reconnus par les Nations Unies. Je vais essayer de resituer un petit peu ce que je fais dans le cadre de mon travail. Pierre vous a présenté un petit peu mon parcours professionnel. Je vais essayer de vous expliquer comment on travaille, nous, la francophonie. D'abord, j'appartiens à une organisation internationale qui est une petite organisation. Elle ne fait pas partie de la famille des Nations Unies, comme peuvent l'être l'Union internationale des télécommunications, l'UNESCO, ou toutes les grandes organisations que vous connaissez, la Banque mondiale et les autres. Nous sommes une organisation, je dirais, qui n'est pas régionale, parce qu'on est présent sur les 5 continents. Donc on est davantage une organisation à caractère particulier, qui autour de l'usage d'une langue, à un moment ou un autre dans l'histoire des pays, les pays ont décidé de travailler ensemble pour faire de la coopération internationale, à la fois pour aider au développement des pays les moins avancés, mais également pour essayer d'infléchir les grandes décisions internationales en essayant de mettre de l'avant leur propre perspective. C'est très contrasté comme organisation internationale. Aujourd'hui, la francophonie compte 68 pays. C'est beaucoup, vous allez me dire, parce que si on demandait aux gens combien peuvent parler, combien de pays peuvent parler en français, personne ne dirait un tel chiffre. Mais aujourd'hui, il y a des pays qui se sont montrés intéressés, des pays aussi bizarres que la Grèce, l'Autriche, font partie de la francophonie, parce qu'à un moment ou un autre de leurs histoires, ils ont eu une relation avec le français et préfèrent travailler avec une communauté pour essayer de présenter des points de vue différents qui, forcément, mettent de l'avant toutes les dimensions culturelles et linguistiques pour essayer d'éviter que ce monde s'homogénise et qu'on ne présente qu'une seule perspective. Donc, ce que l'on fait dans la francophonie, on aide davantage les pays les moins avancés à faire entendre leur voix sur la scène internationale. Et lorsqu'on arrive autour d'une problématique comme la société de l'information, c'est encore plus difficile parce que c'est une problématique qui touche plusieurs secteurs. Ce n'est pas le monde des télécommunications, ce n'est pas nécessairement le monde de la culture, ça touche un peu tout et c'est un peu en rupture avec tout ce que l'on connaît. Et c'est pour cette raison qu'il faut aider les pays les moins avancés à faire entendre leur voix pour ne pas qu'ils subissent les grandes décisions prises par les plus riches, les mieux nantis. Pour ce qui est de la société de l'information, vous le savez, il y a eu un sommet mondial. Il y a eu 2 phases. Une première phase à Genève, qui a duré 2 ans, où les États ont adopté un plan d'action et une déclaration de principe. Et ensuite, une deuxième phase où les États ont adopté un agenda et ont pris des engagements face à la communauté internationale. On peut se demander pourquoi un tel sommet? C'est venu un peu à la fin des années 90, dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications. La Tunisie, comme pays en développement, mais faisant partie de l'Afrique du Nord, qui a des aspirations au niveau du développement que n'ont peut-être pas tous les pays les moins avancés de cette planète, a proposé dans le cadre de l'UIT de s'intéresser à cette problématique et de dire que la question de l'Internet, ce n'est pas uniquement une question qui interpelle les milieux de l'informatique et les milieux des télécommunications, mais que c'est une problématique qui interpelle tout le monde. Nous sommes en train de vivre un changement de société. Pour certains, on parle de révolution. Je ne crois pas qu'on peut aller aussi loin, mais on doit quand même parler d'une évolution. Il y a plusieurs secteurs traditionnels qui sont complètement bousculés par l'usage du numérique aujourd'hui. Que ce soit la téléphonie, on ne peut plus faire non plus du journalisme de la même façon qu'on en faisait avant. On a d'autres points de vue sur le monde. Si on cherche une information, on ne doit plus uniquement se fier à ce que l'on voit à la télé dans les grandes chaînes internationales, que ce soit CNN ou d'autres grandes chaînes du type. Ce n'est pas non plus que les grandes agences de presse qui nous donnent un point de vue sur le monde. Mais aujourd'hui, si on cherche une information, Il y a toute une foison d'informations qui est disponible sur la toile. Et forcément, c'est à nous d'utiliser notre jugement pour savoir qu'est-ce qui peut être valide, légitime. Et ça, à ce moment-là, les États comme la Tunisie ne sont peut-être pas reconnus comme étant les États les plus démocratiques sur cette planète, se sont questionnés et ont demandé qu'il y ait un questionnement international en voyant que tout était en train de changer, de se bousculer, et que le phénomène Internet se faisait un peu en marge de toutes les structures existantes sur le plan politique, sur le plan international. On était presque mis face à un fait accompli. Donc, dans le cadre de l'UIT, la Tunisie a demandé qu'il y ait un sommet mondial. Il y a eu énormément de résonance à cette demande et les États ont répondu favorablement à tel point que d'autres organisations ont jugé également de l'opportunité d'organiser un tel sommet. Ce fut le cas de l'UNESCO qui a souhaité organiser ce sommet à la place de l'UIT en disant justement que ce n'est pas que le domaine des télécommunications, mais que c'est également un phénomène scientifique qui interpelle les milieux culturels, les milieux de l'éducation, qui relèvent davantage de leur mandat. Il y a eu également des pays, comme la Suisse, qui immédiatement s'est proposé de tenir ce sommet. Et dans ce contexte, après un débat pas simple au niveau international, qui a duré un an et demi environ, finalement, ça a été tranché et il fut décidé d'organiser ce sommet et que pour justement maintenir les équilibres entre ceux qui se sont montrés intéressés, il a été décidé que ce sommet se tiendrait justement en deux phases. Une première phase en Suisse, une deuxième phase en Tunisie, donc dans un pays en développement. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu tout ce débat. Vous avez peut-être eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur les documents qui ont été adoptés par les États. Vous avez sûrement constaté que si on lit les textes, c'est un peu décevant. On ne peut pas voir de réelle avancée, on ne reconnaît pas beaucoup de nouveaux droits. Je ne suis pas un juriste, pas du tout un spécialiste de ces questions juridiques, mais vous allez voir, si vous regardez ça avec une perspective juridique, il n'y a pas d'avancée. À peine on va citer des articles existants dans d'autres conventions, dans d'autres déclarations, mais je ne pense pas que c'est ça qui est le plus important. Ce qui a été réellement une réussite de ce sommet, ça a été la mobilisation autour d'un enjeu, la mobilisation internationale autour d'un enjeu. Et ça, je pense que c'est le résultat le plus probant. Également, lorsqu'on a tenu ce sommet, dès le départ, il avait été prévu d'y associer la société civile, le secteur privé et l'ensemble des organisations intéressées pour justement avoir une perspective multiple sur cette problématique et non pas avoir que le point de vue gouvernemental parce que, comme c'est un domaine extrêmement large, il n'y a pas véritablement de balise à la société de l'information, si ce n'est que les gouvernements, il y a plusieurs éléments qui leur échappent. Donc, il avait été prévu d'y associer les gouvernements, sociétés civiles, organisations internationales et secteurs privés. Mais ce fut extrêmement difficile de passer des intentions aux actes. Parce que c'est quand même une chasse gardée. Étant sous l'égide des Nations Unies, les États n'ont pas voulu partager leurs prérogatives décisionnelles et en sachant que dans ce monde, il y a différents points de vue. Et lorsqu'on est en négociation internationale, les négociations sont menées par des groupes, le groupe Afrique, le groupe Gros Lac, Amérique latine, Caraïbes, le groupe d'Asie, les grands pays, les États-Unis qui forment un groupe en eux-mêmes, leurs associés naturels, l'Australie, le Canada, également l'Union européenne. Donc, se retrouvant dans un tel contexte, on ne voulait pas associer ouvertement la société civile, mais on voulait quand même leur donner une certaine voix sans leur donner aucun pouvoir décisionnel, c'est-à-dire se garder la prérogative décisionnelle. Et lorsque les discussions deviendraient un petit peu plus houleuses ou politiques, les mettre un petit peu à l'écart. Donc, ce fut un très très gros débat au départ sur les règles de procédure. Vous pouvez bien comprendre que plusieurs États notamment certains États d'Asie, le Pakistan notamment, Cuba, des pays qui ne sont pas nécessairement reconnus pour leur démocratie, tenaient coûte que coûte à garder à l'écart la société civile. Mais, après négociation, une place fut aménagée. La place ne fut pas, je dirais, très forte, mais il y a eu quand même une place. La société civile pouvait se réunir à tous les sommets, des salles étaient réservées, des périodes étaient aménagées pour qu'ils puissent intervenir leurs représentants, mais également ça posait tout un problème de légitimité. Qui est en mesure de représenter légitimement la société civile? En fait, on s'est retrouvé avec des gens qui représentaient la société civile, c'est-à-dire les gens les plus intéressés à participer. Il n'y avait pas nécessairement une situation où, même s'il y avait des familles, il y avait 24 familles, la famille de l'éducation, la famille des médias, différentes familles de la société civile, on se retrouvait par les gens les plus dynamiques, les gens qui s'exprimaient le mieux, qui occupaient des positions stratégiques, mais plusieurs associations reconnues comme légitimes dans le domaine n'ont pas participé au sommet mondial, faute de moyens. Donc, ça soulevait aussi tout un problème de légitimité, mais qui fut un problème extrêmement intéressant, parce que ce qui fut encore une fois plus intéressant, c'est la modification, d'avoir l'occasion d'entendre des points de vue différents sur le monde, de confronter ces points de vue, et ça, ce fut une très belle réussite, même si les textes n'en rendent pas forcément compte. Si vous allez sur le site du Sommet mondial, vous allez voir les déclarations, parce qu'il y a eu des déclarations en parallèle de la société civile, mais la société civile s'est prise au jeu, et comme tous les travers de ce monde, ils les ont un peu adoptés, c'est-à-dire ils ont agi un peu comme les gouvernements entre eux. Ce fut, je veux dire, d'une certaine manière, un bel exemple de ce que peut être un microcosme. Je veux dire, c'est facile de contester les gouvernements lorsqu'on est dans une position un petit peu d'opposition, mais lorsqu'on doit jouer un rôle, on doit dégager des consensus entre nous, les mêmes antagonismes se sont présentés au niveau de la société civile, et les mêmes difficultés d'atteindre des consensus ont émergé, et forcément, les textes reflètent ça. Même si les textes de la société civile vont beaucoup plus loin que les textes du sommet, parce qu'il y a davantage d'audace, mais il y a eu une confrontation avec tous les différents points de vue, et on n'a pas réussi à faire la convergence des divergences. Le grand absent était le secteur privé. Le secteur privé n'a pas du tout participé. Les grandes multinationales que l'on connaît dans le domaine de la communication ne se sont pas intéressées au sommet. Et bizarrement, ce sont des gens comme les représentants des chambres de commerce qui représentaient le secteur privé. Ce sont, je ne crois pas que ce soit des acteurs naturels, même s'ils ont fait un excellent travail au niveau de la réflexion, de la préparation des positions, mais on se serait tous attendus à ce que les grands groupes Google, Apple, Microsoft puissent faire entendre leur voix, puissent nous préparer un peu à l'avenir, ce qu'ils développaient, essayer d'aider les gouvernements à bien comprendre quels sont les enjeux techniques et comment un enjeu technique doit se traduire par certains choix politiques, et ce ne fut pas le cas. Donc, la première phase s'est tenue. Différents consensus ont réussi à émerger. Mais par contre, deux grands différents. La question de la fracture numérique, comment la résorber, et la question de la gouvernance.
Juste avant de continuer sur la substance, parmi les participants, est-ce que dans les organes plus ou moins techniques d'Internet historiques, ils étaient là?
D'accord. Les gens qui ont participé, ce sont les gens qui sentaient une menace, d'une certaine manière. Bien sûr, l'ICANN, qui est l'organisme de gestion des noms de domaine, eux se sont mobilisés, ont été présents à toutes les réunions, mais ils faisaient partie de la société civile. Alors qu'ils sont davantage associés au secteur privé, mais ils avaient un statut société civile. Ça, ce fut quelque chose d'extrêmement important. Même chose pour ISOC, qui est un représentant d'ISOC Québec ici, qui a participé à plusieurs réunions aussi. ISOC a été présent aussi à toutes les réunions pour faire entendre sa voix. ISOC, c'est la société Internet, donc ça regroupe des gens autant du secteur privé, secteur public, secteur gouvernemental. C'est une association internationale qui a un rôle bien marqué, qui s'intéresse aux enjeux de l'Internet et qui présente des points de vue, présence continue et des positions très claires. Mais je dirais que ce sont surtout des inconnus de la société civile qui ont davantage fait entendre leur voix, qui ont davantage mis de l'avant des idées intéressantes. Et les gouvernements ont eu beaucoup de difficultés à suivre les débats parce qu'il y avait tellement d'enjeux qui leur échappaient. Il y avait des problématiques extrêmement techniques qui n'étaient pas nécessairement comprises par les diplomates. Parce que lorsqu'on se retrouve dans une négociation aux Nations Unies, c'est souvent la mission diplomatique de ce pays, qui est soit New York, soit Genève, qui conduit les négociations. C'est rarement les ministères qui s'occupent de ces problématiques dans leur propre pays. Et ça a des incidences, parce qu'à certains moments, lorsqu'on se retrouve en négociation, des gens parlent de choses qu'ils ne comprennent pas, et ça devient extrêmement complexe, parce qu'on mélange toutes sortes de choses dans la salle, il y a quelqu'un qui reprend la parole pour expliquer ce que c'est, et je dirais que le sommet a montré un petit peu les limites des négociations internationales lorsqu'il y a des sujets qui sont trop vastes, trop variés, et également peut-être trop nouveaux, il faut y associer les experts. Et ce qui aurait été l'idéal dans une vraie négociation, c'est que chaque gouvernement associe à sa délégation des experts de sa société civile. Et c'est là que je pense que moi, c'est un des reproches que je fais aux États occidentaux, aux États du Nord, qui se veulent démocratiques, il y a eu très peu d'États qui ont associé des experts. Le Canada, à certains moments, a associé 2-3 experts, mais pas toutes les réunions. La France ne l'a pas fait officiellement. La majorité des pays ne l'ont pas fait. Et ça, je pense que c'est un peu une lacune. Parce que si on associe des experts, même si ce n'est pas l'expert qui parle et que c'est le gouvernement, parce qu'il y a un moment où il y a quand même des règles internationales à suivre, mais d'avoir un expert avec soi, un expert véritablement reconnu dans son pays, on comprend à la fois les enjeux. Et lorsqu'on assoit les experts ensemble autour d'une problématique très technique, à 85-90%, le consensus se dégage très vite. Le dernier 10%, c'est à la fois les enjeux particuliers qui émergent. Mais quoi faire pour tel ou tel domaine, ça c'est relativement facile de dégager un consensus entre experts. Mais lorsqu'on se retrouve dans une négociation où là les pays ont tendance à ressasser les vieilles histoires qu'ils ont dans d'autres tribunes et ce sont les mêmes personnes, si un pays dit quelque chose, peu importe ce qu'il dit, un pays qui a l'habitude de s'y opposer, va s'y opposer. Et ça retarde terriblement les négociations. Donc, durant cette première phase, deux grandes problématiques n'ont pas réussi à obtenir de consensus. La question de la fracture numérique et la problématique de la gouvernance. Très rapidement, pour ce qui est de la fracture numérique, vous savez ce qu'est la fracture numérique, c'est-à-dire comment les États, les uns par rapport aux autres, ont un accès à l'Internet différent. C'est-à-dire les États qui ont un accès large bande, avec une qualité, un nombre de personnes, au niveau autant des foyers que des entreprises, qui ont un accès de qualité à l'Internet, alors qu'il y a des pays qui ont un accès, les pays en développement, qui vivent déjà des fractures sociales, énergétiques ou autres, qui se retrouvent forcément à subir une fracture de plus. Également, la fracture numérique, elle se trouve à l'intérieur des pays, autant les plus avancés que les moins avancés. Au Canada, il y a aussi une certaine fracture numérique dans certaines zones enclavées, où là, c'est un peu plus difficile d'avoir un accès à Internet. Et la fracture numérique, c'est aussi la qualité de l'accès. On a beau dire qu'aujourd'hui, théoriquement, il est possible d'avoir accès partout dans le monde à Internet. Vraiment, sur le plan théorique, il est possible d'avoir accès à Internet. Mais à quel prix? Si vous avez accès à Internet par satellite en Afrique et que ça vous coûte 3000 euros par mois, personne n'a les moyens de payer ça. Je veux dire. Par contre, si vous avez accès à une simple ligne téléphonique, je vis en ce moment, je suis ici pour quelques jours et je suis chez ma mère, donc j'utilise l'accès à Internet par la ligne téléphonique, je peux vous assurer que c'est un cauchemar. Il y a des choses que je ne peux pas télécharger. Et c'est un frein terrible. Aujourd'hui, l'accès à Internet est présent partout. Du commerce électronique, on s'envoie des messages. avec tout le spam qui occupe aussi les bandes passantes, vous pouvez imaginer comment c'est difficile dans un pays en développement d'avoir un accès Internet. Et également, dans un pays en développement, la fracture numérique, elle est également accentuée par le coût. Je veux dire, déjà, dans un pays comme n'importe quel pays d'Afrique subsaharienne, le coût est en moyenne 3 fois plus élevé que ce que vous pouvez payer ici, à Montréal, ou ce que moi je peux payer en France maintenant. Mais, en plus, le fait que ce soit extrêmement cher, la qualité de la bande passante, elle est forcément limitée. Et ça, c'est un frein. Et en plus, même si c'est 3 fois le prix, ce que ça représente en fonction du niveau de vie des gens, en fonction de ce que gagne une personne par année ou par mois, c'est tellement élevé en proportion, je veux dire, très peu de gens ont les moyens de consacrer 10 à 15% ou 20% de leur salaire pour une connexion Internet. Je veux dire, ça devient presque ridicule, mais c'est souvent le cas en Afrique. Si on veut avoir un accès à la maison, il faut y consacrer un tel pourcentage de ses revenus, donc forcément, ce sont les très riches qui ont un accès à Internet, et ça, c'est un frein majeur. Donc la question de la fracture numérique ne trouvait pas de solution. Ne trouvait pas de solution pour une seule raison, c'est que les États du Nord, considéraient qu'il y avait suffisamment de financements internationaux de disponibles chez les grands bailleurs de fonds, et que il n'y avait pas suffisamment de bons projets, et que ceux qui développaient les projets ne savaient pas comment aller chercher le financement. Bien entendu, il y a eu l'autre position, c'est-à-dire ceux qui vivaient la fracture numérique. Et eux n'étaient absolument pas d'accord avec cette interprétation en disant « ce n'est pas du tout le cas ». Au contraire, le financement, bien sûr qu'il existe, mais ce financement est généralement prévu et utilisé davantage par les gens des pays du Nord qui ont des activités ou des projets dans les pays du Sud. Alors que nous, pays du Sud, lorsqu'on présente nos propres projets qui répondent véritablement à nos besoins, personne ne veut nous financer. Et ce qui est encore plus difficile, si jamais on trouve un financement qui représente un faible pourcentage du projet, il n'y a aucun autre bailleur qui a les mêmes règles, les mêmes critères. Donc on se retrouve toujours dans une situation où la très grande majorité des projets qui sont faits dans les pays en développement ne sont pas ceux qui sont souhaités par les populations locales. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais projets. Absolument pas. Mais ce ne sont pas les projets que les gens attendent, forcément. Et bien entendu, aussi l'autre pendant de la médaille, c'est qu'il y a aussi dans certains pays du Sud, il y a des gens qui ont l'habitude d'obtenir des financements, de mener des projets. Et ils sont plus dans une logique, on passe d'un projet à l'autre, plutôt que de penser à mettre véritablement en place un projet qui va s'inscrire dans la continuité. Donc il y avait tout ce débat de fond. Et l'Afrique avait proposé une solution. C'est le Fonds de solidarité numérique, qui a été une proposition du président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui a proposé un peu sur le modèle de la taxe Tobin, c'est-à-dire, écoutez, se vend plein d'ordinateurs. La difficulté que nous, on a, Africains, c'est que les plus riches, c'est toujours nous imposer leur vue, leurs règles, leur façon de voir les choses, comment, chez nous, on doit utiliser l'Internet, comment on doit le développer. Nous, Africains, nous avons notre fierté, nous avons nos propres politiques nationales, mais on n'obtient pas le financement. On l'obtient encore moins lorsqu'on parle de zones enclavées. En milieu rural, c'est quasiment impossible, là où la demande n'est pas solvable. Donc, le président Wade a proposé de créer un fonds de solidarité numérique qui serait abondé avec 1% des ventes d'ordinateurs sur les grands marchés publics, que ce soit lorsqu'une municipalité achète des ordinateurs par appel d'offres, 1% du marché irait pour abonder le fonds de solidarité numérique. Même chose pour tous les grands qui s'intéressent à cette question. Et en créant ce fonds, de fonctionner un peu sur une base volontaire, c'est-à-dire s'il y a des entreprises qui veulent investir dans le cadre de ce fonds de crédit, c'est ouvert. Donc, l'Afrique a beaucoup appuyé cette initiative en disant, si ce fonds se met en place, nous allons avoir une certaine autonomie. C'est-à-dire, nous ne serons plus obligés d'accepter chez nous différents projets qui ne nous plaisent pas, mais en même temps, ce fonds pourra soutenir des projets qui sont plus risqués. Et dans les faits, ce sont les usagers qui, d'une certaine manière, par solidarité, partageraient une très faible somme avec les plus nécessiteux. Bien entendu, cette approche a été totalement rejetée par les pays du Nord, qui ne voulaient pas entendre parler de ce modèle, mais l'Afrique a vraiment tenu son bout. Et nous, au niveau de la francophonie, pour le Sommet mondial, on avait bien sûr préparé nos États, nos pays, on avait adopté une contribution, et comme le président Wad fait partie de la francophonie, ce fut une position de la francophonie. Donc on a aidé beaucoup l'Afrique à se préparer aux négociations pour justement faire entendre sa voix. Et ils ont pu arracher en toute fin de première phase qu'un groupe de travail sur le financement se mette en place. Daniel ?
On passe aux questions du gouvernement. Sur la facture numérique, est-ce que cette initiative de l'ordre de la part à 100 $ est-ce que c'est lié à ça? Et l'autre chose, c'est, je prends un point de vue du polémique maintenant, pourquoi on financerait le développement d'Internet au sud puisque le téléphone mobile ou cellulaire s'y développe si bien un peu comme de lui-même? Okay? Pourquoi l'Internet, s'il n'y aurait pas des forces, disons, de marché, qui développerait Internet, par exemple, dans des pays émergents, de la même façon que le téléphone mobile se développe.
D'accord. D'abord, l'ordinateur à 100 $. Bon, vous savez, c'est une initiative du MIT, Massachusetts Institute of Technology, Negro Ponte, qui a proposé, dire, ça coûte trop cher un ordinateur, si toutes les entreprises, ensemble, on essayait de développer un ordinateur le moins cher possible, qui coûterait 100 $ américains, le prix cible, on pourrait vendre, parce que c'est l'objectif pour le secteur privé, c'est quand même de vendre, si on réussissait à produire un ordinateur à 100 $, ça pourrait être acheté avec un effet d'échelle, parce que c'est toujours le défi. Tout projet, c'est presque toujours un projet pilote. Alors que là, on dit, si dans chaque pays intéressé, on se vendait minimalement 1 million d'ordinateurs à 100 $, il y aurait véritablement une logique de démocratisation de l'accès. Parce qu'on sait qu'au Sud, le problème, c'est que l'accès à Internet est souvent des accès collectifs, des télécentres, ce soit des cybercafés. Les gens ont rarement un accès à la maison, mais ce sont des accès collectifs où la moyenne, on dit qu'un ordinateur est utilisé en moyenne par 11 personnes par jour. Ce qui n'est pas du tout la moyenne ici à Montréal ou dans un pays en développement. Donc, le projet était justement de mobiliser les gens autour d'un ordinateur qui offrirait minimalement ce qu'il faut pour utiliser l'Internet. Parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, il y a comme une obsolescence programmée, à la fois des logiciels, à la fois du matériel. On va passer bientôt à Microsoft Vista. En passant en Microsoft Vista, la majorité des ordinateurs n'auront pas la puissance requise pour le faire tourner. Donc on va être obligé, probablement si on veut suivre le rythme du développement technologique, on va être obligé de changer. Et là, on se retrouve dans un système où il y a des technologies, je veux dire, comme un logiciel, je ne sais pas, le traitement de texte, quel qu'il soit, que ce soit Word, Microsoft, OpenOffice ou autre, une technologie qui est relativement stable. Je veux dire, le traitement de texte n'évolue pas beaucoup au niveau de ses fonctions, mais il n'y a plus d'intérêt à acheter une nouvelle version. Mais pour avoir une nouvelle version, il faut vraiment avoir un certain attrait. Et une entreprise, c'est pour cette raison, elle doit renouveler constamment, avoir un paiement, que ce soit les antivirus, à toutes les années, il y a un abonnement. Donc, l'idée de l'ordinateur à 100 $ était justement de dire, essayons de sortir de cette logique. Essayons de donner minimalement ce qu'il faut. On sait tous que la puissance de l'ordinateur est davantage liée à l'imagerie numérique. C'est ça qui demande beaucoup de ressources. Mais lorsqu'on fait du texte, de l'Internet, de chiffrier électronique, on n'a pas besoin d'un ordinateur aussi puissant. Mais c'est d'avoir aussi un modèle qui soit portable. L'ordinateur à 100 $ était pensé tout de suite dans une logique de nomadisme. Donc ça a été extrêmement intéressant. Il y a eu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on s'apprête à le déployer. Il coûte à peu près 150 dollars américains. Bon, c'est quand même un prix tout à fait acceptable. Et je pense que c'est quelque chose qui va contribuer. Le problème n'est pas uniquement le coût de l'ordinateur. Le problème est aussi, on a beau avoir l'ordinateur, si on n'a pas un accès, on est limité.
Oui, je vous ai dit. Est-ce que cette approche-là ne vient pas accentuer la fracture numérique? C'est-à-dire qu'on crée des ordinateurs bon marché qui répondent à des standards assez bas de technologie, puis vite fait, comparé au réseau nord-américain, tout ça, vite fait, ces ordinateurs-là sont déclenchés. Et aussi, est-ce que ça ne vient pas? J'ai l'impression de voir une politique internationale que les internationaux utilisent souvent, c'est-à-dire qu'on veut amener des nouvelles technologies dans des pays africains.
Oui.
Si eux ne sont même pas rendus là, on se trouve encore à demander peut-être des frigidaires pour conserver la nourriture et tout ça. Donc on arrive avec une technologie qui va nécessiter des nouveaux downloads, des nouvelles pièces et tout ça. Puis j'ai l'impression qu'on va juste accentuer le cercle là, qui est assez important, là, le clivage.
C'est une façon de voir les choses. Mais lorsqu'on se place dans la perspective des pays en développement, ce n'est pas du tout comme ça qu'ils le voient. D'abord, le projet à 100 dollars américains, il ne peut pas être déployé s'il n'y a pas une demande d'un pays du Sud. Et qu'un pays du Sud ne s'engage pas à l'acheter. C'est le pays qui va acheter. Même si c'est des subventions à la base qui vont probablement lui permettre de faire l'achat, c'est le pays du Sud. La difficulté qu'il y a, je veux dire, on a tous notre propre vision de l'Internet et on veut tous avoir l'accès le plus rapide, l'ordinateur le plus puissant, le temps de réaction hyper rapide, le plus bel écran, le meilleur, le plus petit ordinateur. Enfin, je suis comme ça, j'adore les gadgets, j'ai à peu près tout ce qu'il faut dans mon cas. Mais lorsqu'on va en Afrique ou dans un pays en développement, les gens ont les mêmes désirs que nous. Si vous leur offrez le meilleur ordinateur, ils vont le prendre. Mais ils préfèrent de beaucoup avoir un ordinateur qui réponde pleinement à leurs besoins. Je veux dire, lorsqu'on peut faire le courrier électronique, faire les textes, on préfère avoir un ordinateur qu'on paie 100 dollars que de ne pas en avoir du tout. Et on préfère payer 100 dollars que d'aller au cybercafé. Il y a aussi une fierté individuelle, il y a aussi une logique d'autonomie. Et c'est pour cette raison qu'en déployant ce projet Negroponte, ce qu'il a fait dans son idée, il était tout à fait conscient de cette question, il a dit: quoi qu'il arrive, il faut que les États-Unis fassent partie des pays où ça se déploie pour justement donner la crédibilité au projet et montrer que ce n'est pas une approche pour les pauvres, mais que c'est une approche pour tous les usagers intéressés. Et c'est pour cette raison. Deuxième raison, c'est également pour garder le prix aussi bas, vous êtes conscient qu'il faut utiliser des logiciels libres. On ne peut pas, en achetant une simple licence Microsoft, même si c'est un coût dérisoire, que Microsoft accorde un tarif préférentiel, ce n'est pas possible, je veux dire, pas en gardant un prix aussi bas. Donc, ce sont des solutions libres. Mais les solutions libres, l'idée des solutions libres, ce n'est pas du bas de gamme, ce n'est pas du tout ça. Contrairement à ce que la majorité des gens croient, donc, les logiciels libres, c'est pour les pays pauvres, nous, on aura ce qui est mieux. Pas du tout. C'est plutôt l'idée de dire chaque usager doit préserver sa liberté de choix technologique, doit utiliser des outils qui sont des normes ouvertes. Je ne sais pas. Prenons un exemple. Vous êtes relativement jeune, plus que moi. Moi, je suis plus âgé que vous. Et Daniel, qui va être d'accord avec moi. Moi, quand j'ai commencé véritablement à utiliser le traitement de texte, c'était le Word Perfect. Tout le monde utilisait le Word Perfect. Le Word, c'était tout à fait bas de gamme Microsoft. Et donc, quand j'ai commencé, c'était, bien entendu, les grosses disquettes 5 pouces écart. On était fiers d'avoir un ordinateur qui avait 20 MB de disque dur. C'était quasiment un exploit. Mais, aujourd'hui, si j'essaie de reprendre une disquette avec un fichier Word Perfect de l'époque, totalement illisible. C'est évident que si je fais de la recherche sur Internet et que je réussis à transférer, lire ma disquette, je vais sûrement trouver un outil de conversion sans problème. Mais le fait que c'est un format propriétaire comme WordPerfect qui était à l'époque un standard, parce que c'est là qu'on fait une différence, dans notre jargon, on fait une différence entre un standard et une norme. Là, pour Daniel et Pierre ne sont peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire, mais on appelle dans notre jargon à nous un standard quelque chose qui s'est imposé de fait, qui a été proposé par une entreprise, mais qui, par sa force de rayonnement, s'est imposé. Word Perfect à l'époque, Word aujourd'hui, tous les produits Microsoft deviennent presque un standard. Alors qu'une norme, c'est quelque chose qui a été conçu en tenant compte à la base de partenaires avec des visions multiples où les gens ont décidé de s'entendre pour quelque chose qui soit interopérable et qui puisse être utilisé par plusieurs systèmes, plusieurs individus, plusieurs types d'outils. Et c'est un peu la question des logiciels libres, si j'y reviens. Pour nous, pour un pays en développement, la chose la plus importante, c'est de s'inscrire un petit peu dans la voie qui va les mener peu à peu à leur indépendance. Et les logiciels libres, c'est justement ça, c'est éviter que le numérique crée de nouvelles formes de dépendance exogènes vis-à-vis extérieures. Et c'est pour cette raison qu'un outil comme l'ordinateur à 100$, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas la solution rêvée, mais c'est une des solutions. Il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. Mais les véritables problèmes sont, pour la fracture numérique, il faut d'abord, quoi qu'il arrive, il faut qu'un État s'intéresse à ces questions, qui mobilise sa société, qui interroge sa société civile, son secteur privé, et qui développe sa propre stratégie. Quelle que soit cette stratégie, un État doit développer sa propre stratégie d'accès à la société de l'information, comment s'y insérer. Sinon, s'il subit ce qui se fait à l'extérieur, il risque d'être perdant. Donc, c'est un critère absolu, développer sa propre stratégie. En développant sa stratégie, forcément, on arrive à la question de l'accès. La question de l'accès, elle est primordiale. On a beau avoir un ordinateur à 100$ ou l'ordinateur dernier cri, qui coûte 2-3 000 euros ou 2-3 000 dollars, si on n'a pas un accès à un tarif abordable qui nous permet de faire le maximum possible de ce que l'on peut faire, nous sommes limités. Et la question de l'accès, personne au niveau international ne veut aider les pays en développement à déployer les infrastructures là où il n'y en a pas. Je reviens au point que Daniel a soulevé en disant, c'est évident qu'au niveau du mobile, du portable, du téléphone, l'Afrique, il y a beaucoup plus de portables que de lignes fixes aujourd'hui en Afrique. Mais il n'y a pas encore une capacité suffisante pour avoir un accès à Internet. Le portable est tout à fait intéressant pour les communications verbales, mais les gens ont besoin d'un peu plus que ça. Quand je dis les gens, c'est pas l'ensemble de la population, je veux dire, mais ceux qui en ont besoin, à la fois les étudiants qui ont des livres totalement dépassés dans les universités, ils ont un accès au savoir intéressant avec l'Internet. Le téléphone ne leur permet pas ce qu'ils cherchent. Ils souhaitent utiliser davantage l'Internet. Et pour avoir accès à l'Internet, ce sont les solutions large bande de type WiMAX qui risquent d'être intéressantes à court terme. Que ce soit WiMAX ou toute autre norme, c'est-à-dire un sans fil qui est déployé sur une zone de 20 à 30 km. Là, c'est intéressant parce que ce qui coûte cher, c'est de creuser, déployer des infrastructures. Et comme l'Internet, c'est surtout différents protocoles qui tirent parti des différentes infrastructures existantes, comme le réseau d'infrastructures téléphoniques, il n'y a pas de câble, le réseau est totalement désuet, il y a très peu d'ADSL en Afrique, les pays ne sont pas reliés les uns avec les autres. Donc, il y a un besoin pour déployer le WiMAX, et ça, c'est relativement faisable, à la fois pour un pays qui veut vraiment le déployer, c'est-à-dire avec le financement qu'il peut obtenir par prêt du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, ou bien par des partenariats internationaux avec le secteur privé qui y voient un intérêt, parce qu'en Afrique ou dans les pays en développement, la téléphonie IP, que ce soit Skype, c'est là que ça fonctionne le mieux. Je veux dire, le coût à l'usage par une ligne téléphonique, c'est extrêmement élevé. Vous savez que ici au Canada, vous avez la chance qu'une ligne téléphonique, c'est un coût forfaitaire. On ne paie pas à l'usage. Mais à part le Canada et les États-Unis, qui sont parmi les rares pays où un appel téléphonique est davantage un forfait que l'on paie par mois. Dans la plupart des pays, on paie à l'usage. La ligne téléphonique, donc, il y a un double coût lorsqu'on utilise Internet par téléphone. C'est hyper lent. Et en plus, il faut payer la communication téléphonique. Et c'est là que le spam est un danger. Vous savez, la majorité des anti-spam, c'est on télécharge d'abord les messages et ensuite on les trie. Vous ne voyez que ce qui est bon, malgré encore les lacunes de tous ces anti-spam, mais vous avez quand même téléchargé. Alors qu'en Afrique, si vous téléchargez, vous payez. Et en plus, comme aujourd'hui on parle que le spam occupe 70 à 80% des bandes passantes, vous imaginez les bandes passantes de ces pays qui sont totalement occupées par du courrier totalement inutile. Donc la fracture numérique, pour conclure sur ce point, c'est un enjeu extrêmement important. C'est également quelque chose qui est relatif, qu'on mesure. Aujourd'hui, on peut être les exclus. Demain, on a fait les bons choix. On peut passer parmi les meilleurs. Si on n'est pas capable de suivre relativement l'innovation technologique, on risque de se retrouver exclu. Et c'est pour cette raison que la fracture numérique ne se limite pas qu'à l'accès aux infrastructures. Aujourd'hui, lorsqu'on mesure la fracture numérique, on doit tenir compte de plusieurs facteurs. Est-ce qu'il y a une stratégie nationale? Est-ce que l'accès est là? Est-ce qu'il y a des contenus nationaux qui sont développés? Est-ce que les gens sont formés? Parce que ça prend quand même un minimum de compétences. On est quand même aujourd'hui encore dans le champ de l'écrit avec l'Internet. Et vous savez, il y a beaucoup d'analphabètes dans les pays en développement, donc ça limite. Et en même temps, je pense que c'est aussi un des grands défis, on a tendance, la plupart des organisations internationales, à n'aider que l'élite des pays en développement. On fait toujours le pari de dire on va aider l'élite, et cette élite va aller vers les populations les plus défavorisées, et on aura un impact. Mais la réalité est tout autre. C'est notre grand défi, que ce soit la francophonie, le PNUD ou les autres, on réussit difficilement à toucher les plus nécessiteux. Donc la première phase s'est soldée par tout le débat sur la fracture numérique, le Fonds de solidarité numérique. Et là, il y a eu un groupe de travail qui a été mis en place, qui était présidé par le PNUD. Donc je laisse un peu de côté, mais j'y reviendrai s'il y a des questions. Et il y avait aussi tout le débat sur la gouvernance de l'Internet. Et là, le débat sur la gouvernance de l'Internet, c'était un débat beaucoup plus dur, à la fois sur le plan technique, mais surtout sur le plan politique. Vous savez, quand on parle de gouvernance de l'Internet, déjà personne ne s'entend. Qu'est-ce que la gouvernance de l'Internet? Donc il y a eu tout un débat, quelle est la définition de la gouvernance de l'Internet. Pour certains, c'était l'administration technique de l'Internet. Pour d'autres, c'était plus ou moins tout ce qui touchait à l'Internet, mais qui se situait dans le champ de l'international, c'est-à-dire les grandes politiques internationales de tarification, d'accès à l'Internet, que ce soit le spam, qui est un enjeu important, tout le débat sur la propriété intellectuelle. Pour certains, ça fait partie des enjeux de la gouvernance de l'Internet. Donc, ce fut la même chose. La première phase, après un débat extrêmement dur, où il y a eu des jeux d'alliances incroyables, on s'est retrouvé où il y avait les tenants du modèle actuel qui est basé sur le secteur privé, disons le secteur privé, sont des organismes non gouvernementaux qui ont la responsabilité de toutes les questions de la coordination technique, il y a l'ICANN, l'Internet Corporation Assign Name and Numbers, qui doit gérer ce qu'on appelle les adresses, les DNS, donc toute l'architecture, comment se déploie l'Internet, avec les serveurs racines. Et il y avait les tenants d'une approche calquée un peu sur le modèle des télécommunications, c'est-à-dire il doit y avoir une organisation internationale comparable à l'Union internationale des télécommunications, ou même que ce soit l'Union internationale des communications qui voit son mandat élargi pour que l'Internet soit géré par les États, quelques opérateurs, parce que l'Union internationale des télécommunications fait place aux opérateurs de télécommunications, pour que l'Internet soit géré véritablement par les gouvernements, parce que la majorité des gouvernements ont découvert l'Internet une fois que les gens dans leur propre pays l'utilisaient. Je veux dire, ça se fait en marge, ça s'est déployé, je dirais, totalement en marge des gouvernements. Tout le débat, je ne sais pas, vous vous rappelez, probablement dans les années 90, on parlait surtout d'autoroute de l'information, surtout dans le contexte de la campagne américaine où Al Gore avait parlé du déploiement des grandes autoroutes de l'information. Mais lorsqu'on parlait d'autoroute de l'information, on parlait davantage d'une évolution naturelle des compagnies de téléphone ou des opérateurs de câble de distribution pour qui offrent de nouveaux services. Rappelez-vous, ici au Québec, au Canada aussi, il y avait le grand projet UBI. Il y avait le grand projet Sirius, je m'y suis revenu récemment, mais j'avais totalement oublié, qui était le projet des câbles distributeurs UBI, le projet des opérateurs de téléphonie, notamment Bell, pour tout ce qui était Sirius. Chacun voulait développer son propre projet d'autoroute de l'information, mais encore une fois, système propriétaire. Déjà, on était dans un modèle, surtout la câble distribution, où les gens étaient en situation de monopole, c'est-à-dire... ceux qui se développaient par Vidéotron n'étaient pas nécessairement compatibles avec ce que d'autres câbles distributeurs pouvaient développer. Mais personne parlait de l'Internet. Al Gore ne parlait pas de l'Internet. Les grands rapports internationaux 95-96 ne parlaient pas de l'Internet. En Europe, il y a eu le rapport Bangemann sur la société de l'information, pas un mot sur l'Internet. En France, il y a eu le rapport Terry. Pas un mot sur l'Internet, on parlait de développer le Minitel, le faire évoluer. Même ici, lorsqu'on a réfléchi au départ, c'était les très très grands projets. Là, je peux vous en parler, j'étais dans la première équipe initiale du secrétariat d'autoroute de l'information. J'étais là pendant près de 6 mois, où je m'occupais des questions de langue et de culture. Mais dès qu'on parlait de l'Internet, je veux dire, les gens riaient, je veux dire, c'était pas ça du tout, c'était les très très grands projets, alors que le phénomène Internet existait déjà depuis plusieurs années, dans les milieux davantage de recherche universitaire. Le problème, c'est que c'était moins grand public, mais lorsqu'il y a eu le web s'est mis en place, les navigateurs de type mosaïque, là, il y a eu un phénomène où l'Internet a commencé véritablement à se répandre, et les gouvernements étaient presque mis devant un fait accompli. Et c'est là que la question de la gouvernance, quand on se replace sur le plan historique, aujourd'hui, tout ce qu'on questionne sur la gouvernance, historiquement, il y a eu des choix qui ont été faits parce que c'était quelque chose qui était davantage marginal. Je veux dire, dans les années 80, il y avait un organisme, IANA, qui attribuait ce qu'on appelle les CCTLD, je ne vais pas entrer trop dans les considérations techniques, mais c'est-à-dire les noms de domaines des différents pays. .ca pour le Canada, .fr pour la France. Mais normalement, on se serait attendu, si on était dans un modèle de télécommunication, que ce soit l'UIT qui déploie, le Canada c'est le chiffre 1 sur le plan international, la France le 33, et chacun gère ses numéros de téléphone, interopérabilité, compatibilité, tout est bien organisé, bien géré, et ce sont des organismes, des instances nationales qui s'occupe de ça. Il y a généralement, dans les pays développés, au niveau de la télécommunication, téléphonie, des instances de régulation. On se serait attendu, je suis certain que le Canada aurait dit aujourd'hui, si on déployait l'Internet en partant de zéro, on donnera un mandat au CRTC, ce sera les ministères concernés qui s'occuperont de ces questions, mais pas du tout. C'est pas comme ça que ça s'est fait. L'IANA a donné la gestion, par exemple du .ca, je ne sais plus où il est, ça fait trop longtemps que je suis parti du Canada, mais à des organismes ou des gens qui étaient intéressés à le gérer, qui avaient la compétence voulue pour gérer cette question de l'Internet, mais ce n'était pas une instance publique. Je crois, Daniel, c'était à Vancouver, si je me souviens bien, au départ, à l'université de Vancouver. C'est ça, c'est là. Est-ce que c'est encore là? Je ne sais
non,
plus du tout.
Un organisme.
D'accord. Et... donc, dans les années 90, dans la plupart des pays, c'était pas du tout les structures que l'on connaît dans le domaine gouvernemental, c'était des instances. Les gens disaient presque des instances autoproclamées, mais c'était des gens qui faisaient bien le travail en fonction du volume de l'époque. Et il y a eu également des gens, des des noms de domaine, des nationaux, qui ont profité du système. Je ne sais pas, prenons le cas du Tuvalu, le .tv. Je veux dire, plutôt que d'en faire un nom de domaine national pour cette minuscule île des Pacifiques qui est davantage connue pour son nom de domaine que pour sa géographie ou sa topographie, mais on a vu l'intérêt de dire si on a une adresse avec .tv, on pourra vendre ça à tous les télédiffuseurs de cette planète et on pourra faire l'argent. Ce fut la même chose dans certains pays africains et à certains moments, il y a eu des gouvernements qui ont eu leur propre nom de domaine parce que les pays africains ont commencé à avoir accès à Internet davantage vers la fin des années 90, mais certains ont vu un intérêt à vendre ça parce que le secteur privé s'est montré intéressé à l'acheter avec certaines sommes sans trop connaître ce que c'est. Donc il y a des pays comme République démocratique du Congo qui ont vendu 9 fois leur racine et là aujourd'hui ils font tout pour le récupérer sauf que lorsqu'on vend quelque chose il y a des contrats, des protocoles et comme l'internet ça appartient à personne. Qui va vous allez poursuivre, qui va gérer ça? C'est là qu'aujourd'hui il y a des organismes comme l'ICANN qui ont cette responsabilité, mais ils ne sont pas en mesure nécessairement d'exproprier, si je peux utiliser le terme ici, et de dire aujourd'hui on remet au pays. Donc toute la question de la gouvernance de l'Internet dans les années 90, c'était quelque chose qui fonctionnait très bien. C'était des gens qui avaient davantage des compétences techniques. C'était également, comme vous le savez historiquement, l'Internet, ce sont les Américains qui l'ont mis en place. À la fois sur le plan de l'architecture du réseau. Comme vous savez, c'est un réseau qui est décentralisé. Je veux dire, l'intelligence, elle est de bout à bout. S'il n'y a pas une intelligence nécessairement qui est centralisée, même si pour les noms de domaine, on fait, il y a les serveurs racines, mais l'Internet, c'est les Américains, ils recherchent une certaine stabilité. Et à un certain moment du développement, autour des années 98, ils ont décidé de confier cette responsabilité à un organisme ICANN. Et c'est le département du commerce américain qui a confié la gestion technique à l'ICANN. Mais en confiant cette gestion technique, ils se sont assurés dans un protocole de garder un droit de regard, une supervision sur les aspects techniques pour les questions liées à la sécurité, la stabilité technique. Je veux dire, au moment où ça s'est fait, il n'y a pas eu de critique, parce que les gens découvraient l'Internet dans les différents pays en 98-99. Mais lorsqu'on s'est retrouvé dans le contexte du sommet mondial où les gens commençaient à comprendre, voir la portée de l'Internet, comment l'Internet s'était immiscé au niveau des différents champs d'activité, que ce soit le gouvernement électronique qui commençait à voir le jour, la culture, l'éducation. Et lorsqu'on a dit, mais c'est quand même incroyable, il y a un organisme ICANN qui, du jour au lendemain, peut recevoir des instructions américaines pour, à la limite, fermer l'accès à un pays ou un autre, même si on dit que ça n'a jamais été fait, même si, selon certaines rumeurs, les Américains auraient fermé l'accès à tous les sites Internet en Irak lors des attaques. Lorsqu'il y a eu des tensions avec la Syrie, ils auraient donné instruction à l'ICANN pour empêcher la Syrie de communiquer par Internet. Mais bon, ça n'a jamais été prouvé, personne ne le sait, mais selon les experts, ça aurait été fait. Mais dans la pratique, le gouvernement a théoriquement le droit de regard. C'est inscrit, son protocole. Le protocole arrivait à échéance à l'automne 2006. Il a été reconduit malgré les demandes internationales parce que à Genève, il y a eu quand même un consensus à Genève, c'est-à-dire les États, même s'ils ont souhaité mettre en place un groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet, ils ont quand même adopté certains principes, c'est-à-dire que l'Internet, dans sa gestion, dans sa gouvernance, devait être davantage multilatéral, devait être davantage transparent, démocratique, tenir compte de la diversité géographique. Parce que ce n'était pas le cas. Je veux dire, ce sont des instances qui ne relèvent pas des gouvernements. Tous peuvent y participer. Vous voulez aller à une réunion de l'ICANN? Personne n'a besoin d'une permission. Vous pouvez y aller. Le matin, c'est oui.
devait être théorique pour le ministère justement décide de faire de la censure, est-ce qu'il n'y a pas une obligation dans les conventions ou dans les protocoles, est-ce qu'il n'y a pas une obligation, est-ce qu'ils étaient là de signifier à la population qu'on respecte leur droit de regard sur, par exemple, les sites internationaux, c'est les mêmes, ou la Chine dernièrement qui décide de faire de la censure sur certains sites, les gens comme, je sais pas, au Canada ou au Québec, j'imagine mal le gouvernement dire, ben, on va enlever l'accès à ces sites-là sans nous dire.
Je ne crois pas. Parce que dans la pratique, dans les deux protocoles TCP/IP, on dissocie la transmission de l'information. Donc, c'est comme un système, on va dire, peu importe, sur le plan international, au niveau de la gouvernance de l'Internet, on ne tient pas compte des contenus. On tient compte juste du fonctionnement technique, comment ça doit fonctionner. Et les contenus sont laissés au bon vouloir d'un système qui a été mis en place. Je ne sais pas, prenons le cas de la Chine. Je ne suis pas un spécialiste de la Chine. La Chine a négocié avec Google pour qu'il y ait des adaptations. Et Google, comme secteur privé, a accepté, c'est sa prérogative, c'est secteur privé, que ce soit légitime ou non, avec notre regard d'occidentaux, Google a accepté certaines choses qu'une entreprise peut accepter. Qu'on soit d'accord ou pas, Google a accepté quelque chose. Mais également la Chine, sur le plan de la gouvernance de l'Internet, vous savez comment fonctionne un petit peu l'Internet. L'Internet, c'est pour avoir accès à l'Internet, on doit avoir une adresse IP. Il ne peut pas y avoir deux fois la même adresse IP au même moment sur l'Internet, donc chaque objet communicant a une adresse IP. Ce nombre d'adresses est limité. Il y a un protocole qui s'appelle IPv4 aujourd'hui qui est en usage. On estime à peu près à avec IPv4, la possibilité d'avoir 4 milliards d'adresses Internet. Il y a un nouveau protocole qui a été développé depuis 10 ans, même s'il tarde à être déployé, le IPv6, qui permet un nombre pas infini, mais vraiment énorme d'adresses IP. Mais la Chine a développé un protocole qu'on appelle IPv9, qui est un protocole propre à la Chine, et qui est utilisable pour les noms écrits en chinois. Alors, ils ont internationalisé les noms de domaine. Mais tout ce qui est en IPv9 n'est consultable qu'en Chine. Donc, sur le plan technique, la Chine a pu, d'une certaine manière, contrôler son Internet. Soit d'accord ou pas avec cette approche, il y a possibilité de le faire. Et c'est pour ça que tout le débat international sur la gouvernance de l'Internet, en toile de fond, c'était un débat sur la liberté d'expression. C'était le débat, et on le voyait. Les principaux pays qui s'opposaient, c'est des pays davantage reconnus pour leur liberté d'expression, liberté de communication, versus d'autres pays qui ont tendance à davantage limiter la communication. Et c'est pour cette raison que si, dans le débat, l'approche tout gouvernementale avait été retenue, ça aurait été davantage les pays qui veulent limiter qui auraient gagné. Ça ne veut pas dire que l'UIT aurait limité l'accès à l'Internet, mais il y aurait eu davantage de possibilités qu'un pays puisse gérer complètement toutes les dimensions techniques de l'Internet sur son propre territoire. C'est pour cette raison que dans le débat, il y a eu une position un petit peu médiane qui a été proposée par l'Europe dans le débat sur la gouvernance d'Internet, qui était intéressante parce que la position de l'Europe, c'était de reconnaître tout ce que le secteur privé, les experts, tous les intéressés, les instances existantes, parce qu'on parle, selon le rapport sur la gouvernance d'Internet, qu'il y aurait 41 entités qui joueraient un rôle plus ou moins important lié, que ce soit autant l'adoption de normes que la gestion très technique de l'Internet. L'approche européenne était de se dire, gardons le rôle qui est dévolu à l'ICANN, W3C, qui adopte les normes pour l'accès au web, gardons ces organismes, parce que tout le monde peut y participer, même les gouvernements, mais laissons ces entités telles qu'elles. Mais ce qu'il faut, au niveau international, on ne peut pas non plus leur laisser totalement le pouvoir et n'avoir qu'une approche basée sur des besoins estimés par le secteur privé ou la société civile, il y a quand même un rôle qui est dévolu au gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement doit toujours un peu pallier ce qui ne peut pas être laissé aux simples forces du marché. C'était se dire, l'Europe, mettons en place une structure qui superviserait ces organismes, qui essaieraient d'une certaine manière de donner résonance à certaines attentes et qui essaieraient de veiller à ce que l'Internet demeure toujours avec une certaine neutralité au niveau des contenus, que ce soit davantage sur le plan technique qu'on le gérait, que ce qui est développé soit interopérable, que le système soit pleinement accessible partout dans le monde, et que tout se fasse aussi de manière transparente. Et s'il y a une telle structure au niveau international, cette structure sera forcément multi-parties prenantes, donc multi-acteurs, c'est-à-dire ce ne sera pas que des gouvernements, mais ce sera davantage une approche de type collégial, où il y aura des gouvernements, mais ce ne sera pas les 190 représentants aux Nations Unies, mais qu'il y aura un certain nombre de pays par région, mais qu'il y aura aussi des gens du secteur privé, des gens de la société civile, et comme ça, il y aura déjà un consensus où, sur le plan des attentes citoyennes, les attentes citoyennes pourront s'exprimer, et ceux qui ont la responsabilité technique pourront voir si c'est faisable ou pas. Et ça pourra guider un peu leur choix. Oui ? Oui. Discussion, c'est justement ça qui est le cœur du problème. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'entente comment le faire. Pour le moment, c'est davantage régulé au niveau du fournisseur d'accès. C'est davantage, et là je pense que les gens comme Pierre pourraient beaucoup mieux l'expliquer que moi pour répondre à cette question-là. Il n'y a pas de solution sur le plan international pour le moment. Il y en a qui souhaitent qu'il y ait des solutions sur le plan international techniques. Mais pour le moment, il n'y en a pas. C'est davantage laissé aux différents fournisseurs d'accès la régulation des différents pays. Pour le cas de Google, c'est extrêmement difficile d'encadrer Google pour ceux qui ont la responsabilité de la gouvernance de l'Internet, les instances qui régulent la gouvernance de l'Internet. Parce que Google, c'est une entreprise privée qui investit plusieurs champs. Vous voyez, son plan, presque à tous les mois, il y a un nouveau type de service qui est offert, mais on ne peut pas encadrer. De la même manière qu'on ne peut pas encadrer Microsoft. L'un des freins au déploiement de la nouvelle norme des adresses Internet IPv6, c'est justement que Microsoft ne veut pas rendre son navigateur Internet Explorer compatible avec IPv6, il ne voit pas d'intérêt. Et ça, c'est un frein, parce que Explorer est quand même le navigateur le plus utilisé aujourd'hui. Et s'il l'était déjà pleinement compatible, ça faciliterait. Et là, les pays qui ont à faire le choix, comme la plupart des pays qui ont déployé l'IPv6, ce sont des pays asiatiques, c'est un frein. Je ne sais pas si Pierre, toi, tu aurais pour cette question.
On va avancer là pour un...
En fait, pour encadrer les entreprises privées, la seule façon d'y arriver, c'est de passer par les droits nationaux. Et c'est un petit peu ça que Pietro Sicuro développe. C'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de consensus. Il existe un fantasme, c'est-à-dire que tout le monde rêve que les États un jour s'entendent. Mais comme on est dans l'univers de l'expression, il est loin d'être évident que tous les États pourraient arriver à un consensus sur ce qui est légitime de contrôler sur Internet. Très souvent, dans les débats internationaux, on s'aperçoit que les consensus s'arrêtent à deux ou trois fléaux. Bon, c'est facile de s'entendre pour dire que la pédophilie devrait être proscrite, puis deux ou trois autres fléaux. Mais en dehors de ça, le consensus tend à s'émietter. Et donc, pour pouvoir prétendre exercer un contrôle, par exemple, sur des infrastructures comme Google ou d'autres grands intervenants sur Internet, il faudrait que les États arrivent à un niveau de consensus. Personnellement, je n'ai pas l'impression qu'on va voir ça de notre vivant, mais on ne sait jamais.
C'est justement une des questions qui est liée au débat international sur la gouvernance de l'Internet, parce que pour plusieurs États, comme c'est géré en dehors du pays, ils considèrent que ça bouscule aussi leur pratique, leur valeur nationale, et que c'est très difficile de l'empêcher sur le plan national. On a beau vouloir, avec certains fournisseurs d'accès, mais empêcher tel ou tel type de contenu, mais il y a toujours des nouveaux contenus sous d'autres appellations qui arrivent. Et ça, c'est extrêmement difficile, parce que pour plusieurs États du pays en développement, ce qu'ils ne comprennent pas, ce sont un peu les adresses de type générique, .org, .com, .net. Pour eux, l'Internet, ce devrait être, vous êtes en France, tout le monde a une adresse .fr. Vous êtes au Canada, idéalement, tout le monde devrait avoir une adresse .ca. Parce que lorsqu'on a une adresse de type générique, .com, .net ou .org, on ne voit pas nécessairement la provenance du site ou de la personne. Même si c'est très facile de voir par les adresses d'où vient la communication, nos premiers regards, c'est comme forcément anonyme. Et il y a quand même une certaine idéologie qui est liée à une adresse Internet. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Comme ce ne sont pas les États qui gèrent toutes ces adresses de DNS, les Catalans ont réussi à avoir le .4. Imaginez, on est Québécois, je veux dire. Demain matin, le Québec décide de faire un geste pour marquer sa souveraineté, et il décide de faire un geste dans l'espace numérique. Pourquoi, toutes les fois qu'on a un site Internet, on doit écrire .qc.ca? Même le gouvernement du Québec, ministère de Relations internationales, mri.gouv.qc.ca. Imaginons qu'un jour, je veux dire, le Québec dise, pourquoi je dois, toutes les fois que j'affiche un site de mon propre gouvernement, j'affiche mon appartenance au Canada, je peux demander .qc. Et d'avoir ma propre autonomie. Les Catalans ont créé le précédent. Forcément, les Espagnols étaient tout à fait contre. Mais ils n'ont pas pu l'empêcher parce que le dossier a été extrêmement bien monté. C'est tout à fait possible de monter le même type de dossier pour le Québec. C'est un choix, je veux dire. Est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est une autre question. Mais c'est là que les gouvernements se réalisent que ça leur échappe. Imaginez si le Québec fait une demande auprès de l'ICANN pour obtenir le .qc. Vous allez voir le Canada s'activer. Et les alliances vont se créer. Le Canada va faire son lobby auprès des Américains parce qu'il sait que les Américains contrôlent l'ICANN. Et selon le rapport de force qu'on a avec les gouvernements, on est peut-être en mesure d'infléchir dans un sens ou un autre une telle décision. Mais je veux dire, mais c'est ça qui bouscule beaucoup. Toutes les pratiques, c'est comme ce sont des entités qui ne sont pas gouvernementales, on ne répond pas nécessairement aux mêmes règles sur le plan international. Et c'est là qu'il y a tout un défi. Je veux dire, il n'y a pas de réponse. Et c'est pour ça que moi, je crois qu'ici, vous êtes à l'université, où la plupart d'entre vous vous intéressez au droit des communications, c'est un chantier à développer. Il y a très peu de francophones qui s'intéressent à la gouvernance de l'Internet. Il y en a. Il y en a très peu. C'est davantage des anglophones. Et c'est une lacune dans le sens que ceux qui ont des points de vue différents, je veux dire, un francophone comme un hispanophone ou un lusophone a forcément un point de vue différent des valeurs. S'il y avait davantage de gens de d'autres communautés linguistiques qui participaient aux différentes réunions de l'ICANN ou d'autres, il y aurait probablement aujourd'hui des adresses qui seraient pas uniquement en caractère je veux dire, de type accis, caractère, comme on a l'habitude de voir, maintenant, de notre langue à nous. Nous, francophones, lorsqu'il n'y a pas d'accent, ce n'est pas un problème majeur. Lorsqu'on voit un nom de site et qu'il n'y a pas d'accent, ce n'est pas un problème majeur. Par contre, si nous sommes asiatiques, si nous sommes russes, ce n'est pas du tout un reflet de notre culture. Et il ne faut pas oublier que la majorité des gens dans ces pays-là ne parlent pas nécessairement l'anglais, n'utilisent pas le même type d'écriture. Et pour eux, c'est extrêmement important. Et eux font des avancées considérables. Dans ces pays, je veux dire, c'est là, les Arabes, ceux qui s'intéressent le plus à l'internationalisation des noms de domaine, ce sont les pays asiatiques et les pays arabes, parce qu'ils voient un intérêt. Mais ça, ils ont de la difficulté à obtenir les consensus internationaux, même s'il y a des problèmes sur le plan technique, parce que les pays du Nord, ceux qui participent davantage, les experts des pays du Nord qui participent, sont davantage des gens qui ont une vision davantage anglophone, ou bien les gens qui maîtrisent très très bien l'anglais, eux ne voient pas ça comme une priorité. Et c'est un peu la même chose pour les pays en développement. Les pays en développement n'ont pas les moyens de participer à toutes ces grandes réunions, W3C, IETF, ICANN. Quand il y a trois réunions par année de l'ICANN, je veux dire, si vous n'êtes pas appuyé par votre gouvernement ou par une entreprise, il n'y a pas personne qui a les moyens, à moins d'avoir des très gros budgets de recherche sur le plan universitaire. Mais je pense que vous auriez avantage, si moi je m'intéressais au droit et à la réglementation, je m'intéresserais beaucoup à la gouvernance de l'Internet, parce que c'est un chantier où il y a tellement à faire, tellement, tellement à faire. Et je vous le dis, ceux qui sont à cette université-ci, vous avez des compétences, Pierre Trudel, Daniel et d'autres que je connais. Vraiment, c'est quelque chose qui est à creuser. Parce qu'il n'y a pas de solution encore, il n'y a pas véritablement de consensus internationaux et tout évolue tellement, tellement rapidement. Ce qui est aujourd'hui dans 3 mois, 6 mois, 2 ans, ce ne sera plus les mêmes enjeux, même s'il y a encore des enjeux qui vont rester en suspens. C'est quelque chose d'extrêmement important et c'est là qu'il faut véhiculer parce qu'il y a de tels enjeux culturels qui sont associés, des enjeux économiques. Aujourd'hui, l'Internet investit tous les champs. Bien sûr, on a tendance à parler de l'Internet qu'au niveau de la communication. Mais il y a aussi tous les objets, les identifiants numériques, tous les objets, je veux dire, qui va remplacer les codes-barres. Je veux dire. Et là, c'est des questions extrêmement importantes pour la vie privée. L'Internet va devenir un révélateur de notre vie privée. Le Big Brother que l'on nous parlait à l'époque, mais va devenir d'une certaine manière réel si ce n'est pas véritablement bien encadré. Je veux dire, moi, je n'ai pas de solution, je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Nous, notre rôle dans la francophonie, c'est de travailler avec des experts, les mailler, les aider à travailler, d'aller faire entendre leur position. C'est pour cette raison qu'on essaie, dans les différentes réunions, que ce soit de l'ICANN, on essaie d'y amener une dizaine d'experts francophones. Ils ne sont pas là pour être nos caisses de résonance, présenter nos positions à nous, pas du tout. C'est de permettre aux francophones qui travaillent sur ces questions de travailler avec leurs pairs, de faire entendre leur point de vue, leur voix. Et ça, c'est extrêmement important. Et je vous dis, dans ce domaine-là, nous, francophones, je veux dire autant français, canadiens, les pays du Nord et les pays du Sud forcément aussi, on est en retrait face aux Asiatiques qui ont vraiment compris ces enjeux comme étant quelque chose d'important, qui jouent un rôle extrêmement fort. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux qu'il y a eu beaucoup d'avancées pour le multilinguisme, notamment, comme je vous expliquais. Mais on doit mieux faire entendre notre voix. Il y a très peu, moi je vous le dis, dans les réunions de l'ICANN, il y a très peu de Québécois. Et je trouve ça regrettable. Je veux dire, les gouvernements s'y intéressent peu également. Il y a bien sûr, il y a quelques représentants du Canada, mais le gouvernement du Québec n'est pas présent au niveau de ces enjeux. Et là, on ne peut pas parler, là je peux parler comme un ancien gouvernement du Québec, on ne peut pas parler de champ de compétences provinciales, mais pas du tout, tout à fait ouvert. On n'est pas du tout dans le domaine des télécommunications, on est dans un nouveau champ. Personne ne peut nous empêcher. C'était la même chose. Au niveau du sommet mondial, il y a eu... À certains moments, il y a eu des représentants du Québec, mais qui faisaient partie de la délégation canadienne comme observateur. Mais il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion. Et je pense que c'est une lacune. De mon point de vue, là je vous parle en mon nom propre, comme Québécois, je regrette, on devrait avoir plus de Québécois au niveau de ces questions, cette réflexion. Pas uniquement au niveau des gouvernements, mais que le gouvernement aussi travaille avec ses forces québécoises. Je vous dis, il y a beaucoup de compétences au Québec. Il y a des gens qui sont mieux connus sur la scène internationale que dans leur propre milieu. C'est vraiment, d'une certaine manière, c'est presque regrettable. Je ne sais pas, on parle souvent de Jean-Claude Guédon, que vous connaissez pour la plupart. Jean-Claude Guédon, c'est une grande sommité internationale pour toutes les questions sociales, les enjeux. Je veux dire, même ici, il devrait enseigner au département de communication. Il enseigne en études littéraires. Bon, Jean-Claude, son ami, il m'a souvent expliqué, il a déjà essayé de passer. Mais non, on a tendance à le garder. Puis, vous connaissez ceux que Jean-Claude Guédon, vous savez, son franc-parler. Vous savez que c'est une personne qu'on n'achète pas, je veux dire, mais c'est une personne qui joue d'une crédibilité incroyable. Le Centre de recherche en droit public, l'Exum, ce que fait Pierre, tout ce qui se fait ici au niveau du droit, c'est parmi, vous êtes les experts ici, les professeurs d'ici, font partie des meilleurs. Je veux dire, auprès de ces questions. Et ça, je vous dis, c'est un atout, mais il faut que ce soit aussi reconnu dans notre propre société. Même chose, quand je parlais de Jenny Han Wang, Orbicom a réussi une méthodologie au niveau de la mesure, de la fracture numérique, et aussi un document qui est formidable, un panorama numérique de tout l'Asie-Pacifique. Je vous encourage à consulter. Il y a des documents, des parties qui sont sur le site d'Orbicom, mais là, vous avez tout un panorama, mais c'est la perspective asiatique. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que l'Asie est nettement en avance sur le plan technique. Vous savez, c'est eux qui développent la plupart des technologies. Et c'est là que je crois que, comme Québécois, on devrait essayer de s'y intéresser plus. Vous êtes la force de demain. Je sais que vous allez vous y intéresser dans le cadre de vos cours. Mais je pense qu'au niveau gouvernemental, il y aurait place à y accorder une plus grande importance. Ça, je tiens à vous le dire, parce que trop souvent, il manque de gens. Également, on a une chance aussi, sur le plan international, aujourd'hui, ça se construit, Internet. Ce n'est pas les technologies qui sont totalement abouties, ça évolue constamment. Donc, on fait notre place lorsqu'on est reconnu par nos pairs. Et que vous soyez Québécois, que vous soyez Malien, que vous soyez Africain, si vous avez quelque chose à apporter, une réflexion, une logique d'argumentation à mettre de l'avant, on va vous écouter, on va faire votre place. En dehors de toute structure, je ne sais pas, nous, la francophonie, on a un peu ce problème, je veux dire. Nous, comme je l'expliquais au début, nous ne sommes pas une organisation de la famille des Nations Unies. Donc, lorsque se met en place un groupe de travail, ça ne viendra jamais à l'idée de dire on va demander à la francophonie d'en faire partie. Non, si on demande à la francophonie, il faut demander au Commonwealth, il faut demander au groupe arabe. Bon, il y a tellement d'entités. Mais on va demander à l'UNIT, au PNUD, à l'UNESCO d'en faire partie. Par contre, on s'est retrouvé sur tous les groupes de travail. Le groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet, le groupe de travail sur le financement. On fait partie aujourd'hui de l'Alliance globale. L'Alliance globale, c'est un groupe de travail qui a été mis en place sous le secrétaire général des Nations Unies, qui est présidé par Intel. C'est un petit groupe qui vise à tisser les liens autour de grands projets mobilisateurs. Parce que ce n'est pas juste au niveau du discours que ça se passe. Si on parle, qu'on est tous d'accord, l'important, c'est de faire des choses ensemble. Et si on ne réussit pas à faire des choses ensemble, c'est un échec. On peut faire des choses ensemble s'il y a du financement. Donc, on a un petit groupe de travail qui s'est mis en place. Mais la francophonie, on en fait partie. Pourquoi? Pas parce qu'on est riche, loin de là. Pas parce qu'on est la francophonie, non. Parce que les gens, nos réseaux, ont réussi à gagner leur crédibilité, nos experts ont réussi à faire leur place et sont devenus presque incontournables. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si on fait les efforts nécessaires pour être visible sur le plan international, mais en ayant quelque chose à dire, on pourra faire entendre notre voix. Je ne parle pas pour moi, moi, je ne suis pas moi l'expert, je veux dire. Mais on a tout un réseau d'experts et ce qui est formidable, c'est qu'on peut faire nommer des gens. Je veux dire, là, lors de la dernière réunion du CAN, la vice-présidente du comité gouvernemental, c'est une Sénégalaise qu'on a réussi à faire nommer. Lorsqu'il y a des groupes de travail qui se mettent en place, on nous appelle souvent pour conseiller des francophones de pays du Sud. Et c'est là, c'est tout un domaine de réseau. Je veux dire, c'est des individus, hein. Un réseau, c'est un groupe d'individus qui se connaît, qui se fait confiance, qui demandent les uns aux autres. Et si moi je connais bien Daniel Poulain qui me réfère une personne, je vais lui faire confiance parce que je sais comment il pense. Mais je ne demanderai peut-être pas nécessairement à l'Université de Montréal de me déléguer un étudiant. Et ça, c'est comme ça. Il faut vraiment travailler. Vous n'avez peut-être pas les moyens de voyager, mais si vous vous intéressez à la gouvernance de l'Internet, suivez ce qui se passe sur les différents sites. N'hésitez pas à envoyer des textes. Vous allez voir, peut-être vous allez être invité sans vous en rendre compte par une organisation ou par un autre. C'est comme ça qu'on réussit à faire sa place. Mais il faut avoir quelque chose à dire. Je ne sais pas, je pense que j'étais très court sur la gouvernance, mais j'aimerais mieux répondre à vos questions plutôt que d'entrer dans des considérations trop techniques. Daniel, Pierre?
Oui. Une question, moi, que j'avais.
Oui.
Qu'est-ce qui est à prévoir
là, oui,
tout à fait. À la gouvernance? De quelle façon pourrait, par exemple, se résoudre cette impasse actuelle entre les positions des États plutôt totalitaires, les États-Unis qui veulent conserver leur mainmise, ou ce qu'on perçoit comme étant leur mainmise, et la position européenne, cette position mitoyenne? Qu'est-ce qui est prévisible, d'après ton expérience? Est-ce que ce type de débat est susceptible de connaître une résolution un jour ou l'autre?
Oui. Moi, je crois que le débat va avoir une certaine résolution. Ce ne sera pas l'approche de type gouvernemental unité, ça c'est clair. Ce qui est le plus important, je pense, le fait d'avoir posé des questions a mobilisé tout le monde, mais aussi a fait prendre conscience aux organismes existants qui n'avaient plus les coups des franges comme ils avaient auparavant. Je ne sais pas, l'ICANN ne s'est jamais préoccupé d'avoir de la traduction simultanée, ne s'est jamais préoccupé d'avoir des documents français ou en espagnol ou en d'autres langues, n'a jamais véritablement consulté avant de mettre de l'avant les nouveaux noms génériques. Même chose, le forum sur la gouvernance de l'Internet qui a été mis en place, la première réunion, je n'y ai pas participé, mais mes collaborateurs qui ont pu y participer m'ont dit que c'était presque un échec. Pour une raison, ça a été davantage comme une sorte de colloque d'une certaine manière, où c'était presque à la limite entre la sensibilisation, un lieu de débat, mais où les gens qui connaissent ce dossier-là n'ont pas eu à construire quelque chose ensemble. Moi, je crois qu'on se dirige vers véritablement un peu l'approche européenne, c'est-à-dire les structures existantes vont continuer d'exercer leur travail parce que je pense que c'est les experts qui doivent réfléchir aux nouvelles normes techniques et non pas les gouvernements. Mais je crois aussi qu'on ne peut pas non plus les laisser seuls faire ça compte tenu de la place qu'occupe aujourd'hui tout l'Internet. Il doit y avoir une certaine supervision. Et je crois qu'on va se diriger vers un organisme qui supervisera. Mais superviser un peu à la manière, je sais pas, c'est peut-être un mauvais parallèle, mais c'est peut-être un peu comme une autorité de régulation versus un gouvernement. Le gouvernement va peut-être tracer les grandes orientations, dire peut-être faudrait peut-être donner des licences pour de nouvelles chaînes spécialisées, peut-être le plus loin qu'il peut aller. Un organisme comme le CRTC pourrait dire d'accord, nous allons faire les consultations, établir les choix, tout ça. Je pense que c'est à peu près, on se dirige vers quelque chose comme ça. Le grand défi, c'est qui va siéger où et qui est légitime pour siéger sur une telle organisation. Mais je pense que tout le débat international a tellement fait prendre conscience aux uns et aux autres que plus personne ne pense qu'il va y avoir un camp ou l'autre qui va gagner. Il y aura un consensus, mais je pense que le consensus va se mettre tranquillement en place, naturellement. Je ne crois pas qu'il y ait une entente du jour au lendemain dire voilà, ça sera ça. Ça va être l'approche plutôt du fait accompli. On a déjà réalisé que dans les réunions de l'ICANN, par exemple, depuis peut-être 2 ans, ça a totalement changé. Même les États ont une certaine ouverture et savent de ce qui est possible de contrôler, pas contrôler dans l'Internet. Mais je pense qu'on se dirige vers une organisation comme ça. Mais c'est très dur sur le plan juridique. Moi, ce que je crois, je pense que les gouvernements risquent de perdre leur place, pas uniquement au niveau de la gouvernance de l'Internet, mais au niveau des grands débats internationaux. Le rôle des gouvernements est forcément sur le déclin. Je veux dire, les grands sommets comme Johannesburg, comme le sommet mondial, montrent leurs limites parce que les problématiques sont tellement spécialisées aujourd'hui qu'il n'y a plus totalement l'expertise, l'expérience. Et on ne peut plus, dans ces grands débats, trouver les solutions à tous les problèmes. et forcément ceux qui doivent vivre au quotidien ces questions, qui ont un rôle à jouer, autant sur le plan technique, sur le plan des entreprises, doivent trouver leur place. Et pour que les gouvernements puissent préserver leur place, c'est qu'ils doivent véritablement y associer plus d'experts, moins travailler seuls, s'intéresser véritablement à ces questions aussi, parce que les gouvernements s'y intéressent, mais s'y intéressent trop avec leur propre perspective, c'est-à-dire comment préserver l'existant, plutôt que faire preuve d'audace et se dire, voilà, on est plus en rupture, essayons d'avoir de nouvelles approches. Mais je pense que les relations internationales sont en train de changer aujourd'hui. Et sur le plan des grandes thématiques, on ne pourra plus trouver les solutions comme on pouvait les trouver avant. C'est devenu, ça évolue trop rapidement. Moi, c'est un peu mon point de vue. Et c'est pour cette raison que je crois qu'il faut véritablement prendre sa place à l'international, parce qu'il n'y a pas de limite. Contrairement à ce qu'on peut vous dire, toute personne qui veut participer à une réunion internationale peut facilement y participer s'il en a les moyens. Bien sûr, qui est le problème numéro un. Mais il n'y a plus de limite. Il y a très peu de forums aujourd'hui qui sont strictement réservés au gouvernement. Je veux dire, le sommet mondial l'a démontré, ça crée aussi un précédent. Aujourd'hui, s'il y a encore beaucoup de grands sommets, il y aura toujours une place pour la société civile, les organisations. L'important, surtout avec l'Internet, c'est de réfléchir, faire circuler ces textes sur l'Internet le plus largement possible, l'accès le plus libre possible à notre point de vue. C'est comme ça qu'on fait avancer les causes. Je veux dire, on ne sait plus en allant débattre un lieu ou un autre. Il suffit d'avoir un point de vue qui est partagé par plusieurs, une approche davantage de type collaborative. C'est ça qui permet de faire avancer les choses. Et pour moi, c'est le grand changement qu'on est en train de vivre. Et ça m'apparaît, je veux dire, inéluctable. Je ne crois plus qu'on puisse revenir à un modèle des Nations Unies. Vous savez, il y a tout un débat aux Nations Unies où on se questionne sur ce grand type de structure. Moi, je le vois même dans la francophonie, je ne sais pas comment vous dire, sur ce plan-là. Même si on est une organisation intergouvernementale, bizarrement, les États s'intéressent peu aux grands enjeux. Ils s'intéressent à la coopération, ils vont accepter les grands enjeux. Mais, c'est un exemple, on leur a fait accepter les logiciels libres en 1997. Il y a une déclaration ministérielle. Je ne suis pas sûr que personne n'aurait pu vous expliquer pourquoi. On a parlé de logiciels libres. On a été les premiers sur le plan international à avoir une déclaration ministérielle qui faisait le choix des logiciels libres. Prouvé à l'international. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à une seule personne, Jean-Claude Guédon, qu'on avait comme expert. Et Jean-Claude Guédon a poussé pour les logiciels libres, l'accès libre, des gens. Et dès 1997, on a fait le choix. Mais dès 1997, on a fait des projets de coopération avec des logiciels libres. Et en Afrique, on est reconnu comme l'organisation qui a fait le plus pour la promotion des logiciels libres. Même chose pour la gouvernance de l'Internet. Depuis 1998 qu'on s'y intéresse. On s'y intéresse parce qu'il y avait le problème où les registres Internet, toutes les adresses Internet étaient gérées en Europe pour une partie et aux États-Unis pour l'autre. Il n'y avait pas de NIC africain. Donc, dès 1998, on a travaillé sur ces questions pour mettre en place l'AfriNIC. Et aujourd'hui, l'AfriNIC existe. C'est extrêmement important, c'est-à-dire, c'est tout ce qui concourt vers l'autonomie des pays du Sud. Mais, comme je vous dis, on a pu le faire parce que nos gouvernements ne s'y intéressait pas, c'est ce que je vous dis en privé, mais c'est pas ça que je dirais publiquement, mais parce qu'on a pu leur expliquer quels étaient les choix politiques qui étaient derrière, des choix très techniques, qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils les dépassaient, mais une fois qu'on leur explique bien que derrière un choix technique, il y a forcément un choix politique, et derrière un choix politique, il y a des incidences sur une société, ils vont vous appuyer. Ils nous ont appuyés, et aujourd'hui, ils sont très contents. C'était la même chose pour la gouvernance de l'Internet dès 2003. On a adopté notre point de vue ministériel, également lors d'une conférence ministérielle qu'on avait eue à Rabat, où on avait appelé pour un Internet, une gestion internationale, démocratique, qui tienne compte de la diversité culturelle. Le même texte, plus ou moins, s'est retrouvé après à Genève. C'est pas qu'on avait été visionnaire, loin de là. C'est parce que notre rôle, c'est qu'on travaille avec des experts. Et c'est eux qui connaissent le domaine. Je veux dire, il ne faut pas se substituer aux experts. Ça. On ne peut pas être compétent dans tout. Et c'est ça le problème, je crois, pour la plupart des gouvernements et des organisations internationales. Nous, on a la chance d'être une petite organisation. Donc, lorsqu'on est petit, on doit faire preuve d'ingéniosité pour compenser notre manque de financement et notre manque de moyens. Vous aviez une question?
Avec tout le respect que je parle pour vous, d'avoir un peu, d'entendre un peu l'apologie du fait accompli. C'est-à-dire que moi, j'ai plus l'impression que, historiquement, le secteur privé a développé davantage le réseau Internet qu'aujourd'hui, le gouvernement, les gouvernements et les appareils publics font face à ce retard-là. Oui. Et j'ai l'impression qu'on aurait besoin simplement de. Des correctifs là, de la part d'un appareil pour en réalité suivre le train qui bouge assez vite, mais je ne vois pas en quoi des fonctionnaires, la création d'un ministère X avec des experts qui peuvent très bien travailler pour un gouvernement, vous disiez avoir travaillé
oui.
avec M. Balzo, c'est ça?
Oui.
Donc, je ne vois pas en quoi là, on pourrait là, donner peut-être un, je sais pas, une saveur peut-être culturelle ou une saveur nationale
C'est parce que je vais réexpliquer mon point de vue. Je ne fais pas l'apologie d'un système. Je dis historiquement, un système s'est mis en place. Si aujourd'hui, on avait à créer l'Internet, partant de zéro, je ne suis pas certain qu'on ferait ce qui s'est fait au niveau de l'Internet. Si on demandait à des gouvernements de créer l'Internet, je ne suis pas certain. Quand je dis les gouvernements doivent rester à l'extérieur, ce n'est pas exactement ce que je dis. Les gouvernements doivent participer dans les structures existantes où c'est tout à fait possible d'y participer. Par contre, je ne crois pas qu'on doive exclure le privé, les experts, et de confier la gestion internationale de l'Internet à des gouvernements, quels qu'ils soient. Et des gouvernements dans lesquels j'aurais plus confiance. C'est certain que j'ai beaucoup plus confiance dans le gouvernement canadien que certains autres gouvernements qui sont un peu moins reconnus pour leur aspect démocratique. Mais, il y a des gouvernements, le Canada joue un rôle extrêmement actif sur la scène internationale, je veux dire, lors du sommet mondial, fait entendre son point de vue, mais je pense que, en tous les cas, je veux dire, un gouvernement qui suit bien l'évolution de l'Internet peut facilement en infléchir les directions dans le sens souhaité, mais de ne pas perdre son temps qu'à lutter, à mettre un frein à ce qui ne répond pas à ses attentes ou ce qui ne comprend pas. Je pense que ce n'est pas nécessaire, absolument pas aujourd'hui, de créer un ministère de l'Internet. Je ne crois pas que ce soit nécessaire parce que l'Internet touche à tout. Mais je pense que c'est essentiel, tout à fait essentiel, qu'un gouvernement s'y intéresse. Et que lorsqu'on s'y intéresse, on ne s'y intéresse absolument pas que sur les aspects techniques ou juridiques, mais à la fois sur toutes les questions de contenu qui sont davantage des enjeux de type éducatif, culturel. Ce sont également des enjeux économiques qui sont derrière. Et je pense qu'un gouvernement, autant le Canada que le Québec, ont fait d'excellents choix sur le plan du gouvernement électronique, sur le plan de l'accès aux droits par l'Exum. Daniel pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi. Le Canada était un pionnier, mais un modèle. Et le modèle qui a été développé par le Canada a été repris par d'autres. Je pense que le pays, le Canada, et la province de Québec ont fait quand même beaucoup de choses. Mais par contre, si je reviens à la gouvernance de l'Internet, les aspects de régulation internationale de l'Internet, là je crois qu'il y a encore beaucoup à faire, autant pour le Canada que pour le Québec. Mais je veux dire, c'est tout à fait possible de faire dans le contexte existant. Oui, vous avez une question?
La gouvernance de l'Internet s'intéresse beaucoup au web, au web 2.
Oui, d'une certaine manière. Au niveau de la gouvernance de l'Internet, comme j'explique, il y a 41 organismes. W3C, qui est considéré comme un organisme de gouvernance de l'Internet, s'intéresse particulièrement à ces questions parce que ce sont des enjeux à la fois techniques. Donc, pour ce qui est de toutes les normes en usage permettant l'interopérabilité, tout à fait. Mais on a tendance à associer la gouvernance de l'Internet qu'à l'ICANN. Parce que c'est ça qui est plus visible d'une certaine manière. Mais toutes les normes, l'architecture technique, c'est extrêmement important. Mais est-ce que, je vous pose la question, est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans les gouvernements qui s'intéressent au Web 2? Ou Mais bravo. Mais je pense que c'est une des rares, et c'est formidable. Le fait, il faut que les gens s'y intéressent, mais je pense que ce que je disais pour le gouvernement du Québec, je reproche, je le fais parce que je suis Québécois et que j'ai travaillé pour le gouvernement du Québec. Je vous dis, si vous vérifiez, il y a une personne, je n'aimerais pas son nom parce que je la connais très bien, mais c'est une personne qui est une gestionnaire de projet, qui n'a jamais travaillé au niveau des enjeux stratégiques. Lorsqu'on se retrouve dans un sommet mondial, on est forcément au niveau des enjeux techniques, stratégiques, politiques. On a chacun notre expertise, je veux dire. Mais cette personne, qui est très correcte, je veux dire, mais n'a jamais pu mettre une idée de l'avant. Quand je dis ça, ce n'est pas un reproche. C'est un peu comme si vous, moi, vous m'envoyez juger l'Orchestre symphonique de Montréal sur le plan de l'interprétation musicale. Je ne suis pas un spécialiste de la musique, mais c'est moi qui ai choisi pour y aller. Vous n'aurez pas le même point de vue que si j'étais quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à ces questions et qui travaillait dans le domaine de ces questions. Et c'est dans ce contexte-là que je fais un reproche au gouvernement du Québec. Mais c'est un reproche qui peut être facilement compensé. Il n'y a rien qui empêche. Mais pour bien se préparer, il aurait fallu que la personne travaille avec certains experts. Quand je dis travailler avec des experts, ce n'est même pas donner un contrat. Que ce soit même des experts gouvernementaux. Quand je parle d'experts, c'est autant un expert gouvernemental qu'un expert du secteur privé ou de la société civile. Mais l'important, c'est d'essayer de montrer qu'au Québec, il se fait des choses, qui a intérêt à les partager sur le plan international, qui a intérêt aussi à aller chercher ce qui se fait sur le plan international et voir comment on peut se l'approprier. Mais c'est dans ce contexte-là que je me dis, tout est ouvert aujourd'hui. Et c'est une chance à saisir. Et c'est pour ça que certains États contestent cette possibilité. Mais c'est une chance à saisir, et pour les États du Sud, au contraire, souvent c'est plus facile, parce que dans les systèmes de type traditionnel, ils n'ont peut-être pas toujours leur place. Mais alors que lorsque c'est ouvert avec un peu d'imagination, de dynamisme, on peut faire sa place. Et c'est dans ce contexte-là que je reproche un petit peu au gouvernement du Québec, en sachant que le Québec est une société moderne, que le Québec a été longtemps le territoire francophone le plus avancé sur l'Internet, qui se fait de très bonnes choses au Québec au niveau de la communauté. Le gouvernement fait de très bonnes choses au niveau du site gouvernemental. C'est quand même bien. Je veux dire, je ne veux pas le juger plus, mais je veux dire, c'est, si vous comparez avec certains autres sites de d'autres gouvernements du Nord, c'est quand même bien. Il y a toujours place à l'amélioration. Mais je pense que sur le plan stratégique, là, il y a des lacunes. C'est dans ce contexte-là que je vous dis, je ne sais pas, je vais donner un exemple. Il y a une délégation du Québec. Il devrait y avoir une personne qui suit les dossiers du numérique. À Paris, il y a l'OCDE, il y a l'UNESCO, il n'y a personne. Bon, forcément, ces questions-là, il n'y a pas de relais. Il pourrait y avoir facilement une personne à Genève. Il n'y a personne qui suit ces questions. Pour moi, c'est une lacune, d'une certaine manière. Je veux dire, c'est très facile à corriger. Et ce n'est pas des coûts importants. Je veux dire, des coûts, à l'échelle d'un gouvernement, négligeables. Mais c'est dans ce contexte-là, je me dis, si le Québec était présent, par exemple, à toutes les réunions de l'ICAN, qui se dirige vers une adresse de type .qc, ou ça c'est autre chose, ça c'est juste un jeu politique, ça c'est secondaire, mais au moins comprendre comment ça se passe, faire entendre sa voix. Ensuite, ça faciliterait les choses. C'est dans ce contexte-là, quand je dis ça, c'est une critique constructive pour le gouvernement du Québec, parce qu'il pourrait apporter. Parce que la société québécoise a beaucoup à apporter, il y a beaucoup d'expertise. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Daniel, sur mon micro? Je ne sais pas, Pierre, j'ai pas vu Pierre a préparé, je crois, un site, il y a des textes intéressants.
Alors, sur le site du cours DRT 3808, il y a un lien qui mène à une page qui comporte elle-même une collection de liens sur la gouvernance d'Internet. Alors, tout un ensemble de sites, notamment ceux qui ont été cités dans l'exposé de M. Pietro Sicuro. Donc, tout un ensemble de liens donne accès au site officiel et au site moins officiel, mais tout aussi intéressant, et qui s'intéresse à la gouvernance d'Internet. Donc, on y accède par la page d'accueil du cours DRT 3808 et ou encore par la page d'accueil de la chaire Adair Wilson. On fera le lien aussi pour y accéder directement.
Et moi, je vous invite, si vous écrivez des textes, n'hésitez pas à nous les transmettre. On pourra les mettre sur notre site si vous nous donnez la permission. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour, on vous invitera. On espère le faire, peut-être. Mais également, je pense que c'est important, si vous vous intéressez à ces questions, n'hésitez pas à faire circuler votre point de vue, de vous intéresser à ce qui se fait. Et je pense que c'est important d'essayer d'avoir aussi la perspective de d'autres régions. Je veux dire, intéressez-vous à l'Asie. Je cite un peu ce qu'a fait Jian Wang qui est ici, mais Orbicom, qui est un réseau des chaires en communication des universités, ont fait d'excellentes choses, notamment sur la gouvernance de l'Internet, mais dans la perspective asiatique. Les textes sont disponibles aussi en français, même si l'Asie travaille en anglais. Et il y a aussi une excellente étude sur la fracture numérique, la méthodologie, qui fait partie aussi des méthodologies qui sont en train d'être adoptées au niveau international pour mesurer la société de l'information.